Bonjour à toutes et à tous. Donc Louis Maillard, je suis neurologue au CHU, donc dans le service de neurologie du professeur Vespignani. Et je suis vraiment très heureux que Jean-Luc ait organisé cette journée et puis m'ait invité à participer. Déjà comme auditeur, parce que je croyais tout savoir sur les épilepsies. En fait, je m'aperçois que j'ai déjà beaucoup appris, encore, en écoutant les orateurs précédents. Et puis donc comme orateur, pour vous parler un petit peu d'un examen qui peut paraître ancien, l'électroencéphalogramme, parce que il a été inventé dans les années 40, en fait, enfin, et précisément en 1937 par Hans Berger. Et ce que je voudrais vous illustrer, les patients épileptiques connaissent bien cet examen, ils l'ont eu souvent de façon répétée, mais ce que je voudrais vous illustrer, c'est que cet examen est encore d'actualité, est encore capital dans la démarche diagnostique des épilepsies, qui comporte plusieurs étapes, dont le diagnostic étiologique, et c'est là-dessus que je vais m'arrêter un petit peu aujourd'hui. Le diagnostic étiologique, vous l'avez bien compris depuis tout à l'heure, étant la recherche de la cause ou des causes de l'épilepsie. Alors, le dernier schéma que le docteur Raffo vous a montré fait finalement la transition, parce que moi j'avais le même avec des couleurs différentes, mais vous voyez que chez l'adulte, finalement, on a comme chez l'enfant un grand foisonnement, je dirais, de causes possibles des épilepsies, et ce schéma a comme avantage, je dirais, d'illustrer cette grande diversité des maladies épileptiques et des causes de l'épilepsie. Alors, classiquement, comme on vous l'a dit, donc on divise les causes des épilepsies en épilepsie idiopathique et non idiopathique. Et ce sont des classifications sur lesquelles on vous a parlé du bureau, enfin de la Ligue internationale contre l'épilepsie. Il y a régulièrement des comités d'experts qui se réunissent. Et on est en train d'évoluer pour faire évoluer ces termes, pour les rendre peut-être un peu plus clairs, parce que idiopathique, ça parle pas beaucoup. Et donc, ce qu'on sait maintenant, ce qui est probable, c'est que les causes dites idiopathiques, en fait, sont des causes d'origine génétique. Alors, quand on dit d'origine génétique, ça ne veut pas forcément dire qu'un gène a été identifié, ou bien même que cette épilepsie est en rapport avec un seul gène. Dans la plupart des épilepsies idiopathiques, en réalité, qui sont en rapport avec sont donc d'origine génétique présumée, sont en rapport en fait avec plusieurs gènes. Et même si on dit qu'elles sont génétiques, la plupart de ces épilepsies idiopathiques ne sont pas héréditaires. D'accord ? Donc c'est des nuances à avoir un petit peu en tête. Et on a remplacé le terme d'épilepsie non idiopathique ou symptomatique par structurelle et ou métabolique. Alors structurelle, ça fait référence donc à une anomalie de structure, d'organisation, ou à la présence d'une lésion cérébrale, identifiée ou non identifiée à l'IRM, pour faire le lien avec les présentations précédentes. Et puis une troisième catégorie qui sont les épilepsies finalement, dont on ne connaît pas la cause. On ne sait pas encore si elles sont d'origine génétique ou bien si elles sont d'origine structurelle ou métabolique. Alors, donc, ce qu'il faut savoir aussi, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pour chaque catégorie de cause, eh bien, la cause présumée peut être certaine ou probable ou possible. Il y a différents degrés de certitude. Comme on n'a pas un seul examen qui permet, dans la plupart des cas, de dire « voilà, je suis sûr, c'est ça, la cause, elle est là ». Dans la majorité des cas d'épilepsie, on n'a pas un examen qui permet d'identifier une cause bien précise. Il faut un faisceau d'examens. Et souvent aussi, ça a déjà été dit, mais je voudrais le répéter, c'est l'évolution, c'est la répétition des crises, ou l'apparition de nouveaux symptômes, ou un regard plus aiguisé sur un examen qui va permettre finalement d'identifier une cause qui pourra être encore une fois possible, probable ou certaine. On n'est pas... en dehors de cas bien précis, je dirais, où on a identifié un gène, ou bien où on est certain qu'une lésion dans le cerveau est responsable de l'épilepsie, il y a beaucoup de situations, finalement, où la cause est une cause présumée, simplement. Alors l'EEG, là-dedans, comment il intervient, à quoi il sert ? Alors l'électroencéphalogramme, l'électroencéphalogramme enregistre l'activité électrique qui est produite par le cortex cérébral. Le cortex cérébral, qu'est-ce que c'est ? J'ai pas de clé, j'ai pas de souris, oui. C'est pas grave. Donc le cortex, on n'a pas un pointeur ? Ah oui, si. Merci. Le cortex cérébral, c'est la surface. Le cortex, ça veut dire l'écorce en latin. Donc c'est la surface du cerveau. Et vous voyez, ça a été représenté ici en beige, un peu plus foncé. Voilà. Et la surface du cerveau, vous voyez qu'elle est essentiellement enfouie dans des sillons comme ça. Et donc ce cortex, il est constitué de plusieurs couches cellulaires, 6 exactement, dans la majorité de la région, des régions cérébrales, avec beaucoup de sortes différentes de cellules nerveuses, qu'on appelle les neurones, et il y a un type de neurone particulier, qu'on appelle les neurones pyramidaux, les cellules pyramidales, qui sont ces gros neurones-là, dont les corps cellulaires ont une forme un peu de pyramide. Eh bien, ces neurones-là, ils ont une organisation particulière, ils ont tous une organisation parallèle, comme ça. Et l'information dans ces neurones, elle circule sous la forme d'impulsions électriques qui vont de ce qu'on appelle des dendrites jusqu'au corps cellulaire et puis ensuite dans les axones. Et cette organisation parallèle et cette polarisation électrique de ces cellules nerveuses, eh bien, fait que lorsqu'elles fonctionnent, ces cellules, et lorsqu'elles fonctionnent de façon synchronisée, elles produisent des oscillations de champs électriques, de différences de potentiel, de voltage, qui sont symbolisées ici, et qui s'additionnent les unes aux autres. Et finalement, s'additionnant les unes aux autres, hein, il faut des millions de neurones qui fonctionnent de façon synchronisée pour produire un signal qu'on peut enregistrer, mais lorsque ça s'additionne et que ça synchronise, eh bien on peut recueillir leur activité sur ces électrodes. Or, vous savez, les crises d'épilepsie et la maladie épileptique, elles sont liées à des perturbations hein, de ce fonctionnement neuronal qui peut se caractériser donc, par des activités électriques anormales. Et donc, avec l'enregistrement de l'électroencéphalogramme, je dirais on est au plus près du fonctionnement ou du symptôme, disons, de la crise épileptique à travers sa traduction, au plus près de son mécanisme, qui est un mécanisme de dysfonctionnement neuronal et de dysfonctionnement électrique. Alors comment on enregistre l'électroencéphalogramme ? Alors l'électroencéphalogramme peut être enregistré seul ou bien parfois et de plus en plus combiné avec de la vidéo, ce qui permet en cas de... Si pendant l'enregistrement on a l'émergence d'un symptôme clinique, d'un symptôme de crise, eh bien ça permet de faire une corrélation entre la manifestation électrique de la crise et sa manifestation clinique. Mais la vidéo n'est pas systématique. Alors donc on branche les électrodes qui sont posées ou collées sur la tête du patient à ce qu'on appelle un amplificateur, une tétière, et puis donc cette tétière, vous allez le voir, donc est connectée. Donc, alors on amplifie le signal, on le convertit, c'est connecté à un ordinateur ici qui permet donc d'enregistrer le signal et qui va permettre donc finalement de faire une analyse visuelle et parfois même d'appliquer des outils de traitement en fait hein, de cette activité électrique. Pour mieux caractériser finalement ces anomalies épileptiques. Alors le patient, ben vous voyez, il a des électrodes qui sont soit posées, soit collées. Dans ce cas-là, elles étaient collées hein, sur le cuir chevelu. On peut en mettre un petit nombre. Ça nous donne peu d'informations topographiques, mais ça nous donne déjà des informations utiles. On peut mettre 8 électrodes ou 12 électrodes. On peut aller jusqu'à, en routine, je dirais 20 électrodes et parfois 64 électrodes, comme chez le cas chez ce patient. On ne le fait pas chez tout le monde, le nombre d'électrodes varie en fonction des objectifs qu'on se fixe pour cet examen. Alors qu'est-ce que nous apporte l'électroencéphalogramme pour le diagnostic étiologique, c'est-à-dire pour la recherche de la cause de l'épilepsie pour un patient donné? Eh bien, je vais vous illustrer quelques exemples. On a ici donc par exemple, c'est l'histoire d'un patient qui a fait une première crise généralisée tonico-clonique il y a une vingtaine d'années. Et quand on l'interroge, il nous raconte que le matin, au petit déjeuner, il a tendance à avoir des secousses qui lui font volontiers renverser son bol de café au lait. Alors déjà, quand on a cette description clinique, on a déjà une petite idée de ce qu'on appelle du syndrome, c'est-à-dire du type d'épilepsie, mais aussi de sa cause. Parce que habituellement, avec ce type de syndrome, on a une cause qui est une cause idiopathique ou génétique présumée, mais sans gène identifié précisément. Hein. Et l'analyse de l'EEG eh bien, va confirmer cette suspicion en mettant en évidence ce qu'on appelle dans notre jargon un grapho-élément, et plus précisément des polypointondes. Alors cet aspect EEG, combiné avec la description de l'histoire clinique, sont quasiment une signature quasiment complètement spécifique d'une maladie épileptique qu'on appelle l'épilepsie myoclonique juvénile, qui est une maladie idiopathique ou génétique présumée. Voilà. Donc c'est de nouveau cet arbre, et vous voyez que dans ce foisonnement d'étiologie, finalement, une analyse clinique précise combinée avec un électroencéphalogramme eh bien, vont vous donner un diagnostic syndromique et étiologique extrêmement précis. voyez que des fois, il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'examens très compliqués pour arriver à un diagnostic précis. Bien évidemment, ça, c'est un cas simple. Autre exemple, c'est un patient, on peut imaginer qu'il a le même âge, qu'il a une vingtaine d'années, ça fait 2-3 ans que la nuit, il a des nuits agitées. Hein, et son entourage nous dit, ben, la nuit, des fois, il se réveille, il s'agite dans son lit, il a des mouvements un peu désordonnés, parfois un peu violents, c'est très brutal, il n'en garde aucun souvenir. Et vous voyez que là, l'électroencéphalogramme, vous voyez qu'on met pas énormément, il n'y a pas besoin de beaucoup d'électrodes, une vingtaine d'électrodes, et bien on met en évidence des anomalies, vous voyez qu'elles sont complètement différentes des précédentes, parce qu'au lieu d'être présentes sur toutes les électrodes, vous voyez qu'elles sont localisées et présentes sur seulement deux canaux, hein, qui sont très très localisés sur le cuir chevelu. Vous voyez ici, qu'on appelle FP1 et F7, et c'est cet élément-là, donc c'est un élément épileptique, qu'on appelle une pointe-onde, et puis qui est suivi ici d'une petite pointe. Et bien cet élément-là, vous voyez, si on le cartographie, si on regarde sur la surface du scalp ou comment il se projette, vous voyez qu'il a une projection qui est très très localisée. Et donc ça nous permet de... Hop là, c'était pas ça que je voulais montrer, voilà. Et ça, eh bien, ça nous permet de dire qu'on est dans le cadre d'une épilepsie qui est probablement focale, c'est-à-dire où le générateur de la crise est probablement localisé dans le cerveau. Alors ça nous oriente un petit peu, parce que quand on sait que le générateur, l'origine des crises est très localisée dans le cerveau, on sait que la probabilité est beaucoup plus élevée pour que cette épilepsie soit en rapport avec une cause structurelle, c'est-à-dire une lésion, soit acquise, soit malformative du cerveau. Et parfois même, non seulement l'électroencéphalogramme va nous guider en nous montrant en effet que l'épilepsie est liée avec une cause structurelle du cerveau, mais même parfois l'électroencéphalogramme va nous donner une signature très très spécifique de cette cause. C'est-à-dire que quand on a cet aspect-là, hein, que, vous voyez, qui est très très particulier, avec ce qu'on appelle des petits rythmes rapides suivis d'ondes lentes, même qui, si on arrivait à grossir encore, à faire une loupe, on verrait que sur cette onde lente, il y a encore des petits rythmes plus rapides. Et bien ça, c'est une signature très très spécifique d'une cause structurelle de l'épilepsie qu'on appelle la dysplasie corticale focale. Ça vous a été illustré tout à l'heure par le docteur Tisserand. Hein, donc une dysplasie corticale focale. Alors ça, c'est intéressant quand c'est combiné à l'IRM et que les deux montrent la même chose, mais très fréquemment, cette dysplasie corticale focale, on ne la voit pas en IRM, elle n'est pas visible, parce qu'elle est trop petite pour générer des anomalies structurelles dépistables sur nos examens d'imagerie standard. Et même quand on ne la voit pas, le fait d'avoir cette activité-là spécifique sur l'électroencéphalogramme, on est certain, à 100%, qu'en dessous, même si on ne la voit pas, il y a une petite malformation corticale, une dysplasie. Donc parfois, l'électroencéphalogramme, non seulement il nous guide dans la recherche de la cause, mais même parfois, il nous donne la solution, il nous donne la cause. C'est un autre exemple, hein, simplement. Et puis, tout à l'heure, le professeur Raffo a terminé en expliquant en fait, hein, l'importance dans les épilepsies qui étaient liées à une cause structurelle du cerveau, l'importance qu'il y avait finalement à essayer de la rechercher. Parce que dans ces cas-là, lorsque cette épilepsie résistait au traitement médicamenteux, eh bien le traitement chirurgical pouvait éventuellement apporter la guérison. Mais il y a beaucoup de situations, finalement, où l'EEG, dans la majorité des cas même, où l'EEG, en fait, est l'examen qui va nous permettre de rechercher et de localiser dans le cerveau cette lésion responsable de l'épilepsie. Alors, on vous a dit, oui, mais alors, s'il y a une lésion, elle doit être visible en IRM, hein, comme vous l'a montré le docteur Tisserand. Oui, mais parfois, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de lésion visible en IRM. Ou bien parfois, vous avez des lésions en IRM, mais vous n'êtes pas certain que cette lésion est la cause de l'épilepsie. Ou bien vous avez une lésion, mais cette lésion est très étendue, et finalement l'origine de l'épilepsie est beaucoup plus localisée. D'accord ? Donc en fait, vous avez d'une part une épilepsie avec des symptômes, d'autre part une lésion, et la difficulté, c'est de mettre en évidence un lien de causalité entre les deux, c'est-à-dire faire la preuve que cette lésion est bien responsable de vos symptômes et de l'épilepsie. Et deuxièmement, quand cette lésion n'est pas présente, eh bien, pouvoir dire malgré tout, même si on ne la voit pas, où elle se trouve. Alors là, vous avez un exemple d'enregistrement EEG avec 64 canaux et avec une petite anomalie qu'on voit peut-être pas très bien ici, qui est ce qu'on appelle une pointe, une petite pointe ici, vous voyez. Et là encore, elle a une projection qui est localisée, c'est-à-dire qu'on la voit uniquement sur quelques électrodes, et ces électrodes, elles sont temporales. Et lorsqu'on applique, alors là on est dans un domaine un petit peu frontière avec la recherche, c'est ce qu'on appelle l'imagerie de source électrique, mais le raisonnement est exactement le même avec l'EEG de routine. D'accord ? Je vous ai simplement mis ces images pour vous illustrer un raisonnement que tous les neurologues, les épileptologues font sans même avoir tous ces examens compliqués, simplement avec un EEG avec 20 électrodes. Mais chez cette patiente, vous voyez que le générateur de ces pointes, eh bien, il a une localisation qui est temporale. Et là, on est surpris parce qu'on dit, mais... attendez, ça, elle n'a pas de lésion là dans le lobe temporal visible en IRM. Elle a par contre, cette patiente, une grosse lésion séquellaire, vous voyez, frontale, d'une souffrance ischémique anténatale. Donc, on a une grosse lésion frontale qui est visible en IRM, mais on a une épilepsie qui est en rapport avec un foyer épileptique qui est temporal. Voilà. Et cette patiente, donc dans des cas compliqués comme ça, pour pouvoir être certain qu'on ne se trompe pas, on va enregistrer l'activité électroencéphalographique, mais cette fois plus simplement avec des électrodes sur le scalp, mais avec des électrodes intracérébrales. Et chez cette patiente, ces enregistrements ont montré, ont fait la preuve, que ces crises d'épilepsie partaient bien de cette zone-là, qui était morphologiquement normale à l'IRM, et pas du tout de cette cicatrice-là, de l'infarctus anténatal. Cette patiente a été opérée et ne fait plus de crise. Donc dans la région temporale. Un autre exemple, je vous ai parlé tout à l'heure de dysplasie, vous avez là encore un aspect tout à fait typique d'activité dysplasique, ces petites activités rapides. Ça c'est un patient qu'on a pris en charge récemment, qui est originaire de Belgique. Eh bien, vous voyez qu'on a localisé, on a pu localiser l'origine en fait de ces activités épileptiques, qui sont symbolisées ou représentées sous la forme de ces petits vecteurs, dans une région du lobe frontal qu'on appelle le gyrus frontal moyen et le sillon frontal supérieur. Eh bien, cette structure-là, cet IRM, on l'a revu plusieurs fois dans les staffs d'imagerie d'épilepsie avec les neuroradiologues, les médecins nucléaires, les épileptologues du service. On l'a revu plusieurs fois et on n'a jamais été capable de mettre en évidence sur l'IRM une anomalie morphologique. Vous voyez ? Et donc là, c'est clairement l'EEG qui nous dit, là, vous avez une malformation corticale. Donc ce patient a été enregistré, c'était il y a un mois, hein, c'est tout frais, avec des électrodes intracérébrales, c'est ce qu'on appelle la stéréoélectroencéphalographie. Et vous voyez ici, vous avez l'électrode que j'ai cerclée en bleu, qui enregistre cette activité ici, et qui, vous voyez, correspondirait vraiment très précisément à la localisation qui était donnée par l'imagerie de source électrique, par l'EEG. Et qu'est-ce qu'on retrouve dessus ? La présence d'une activité dysplasique. C'est-à-dire que là, on a une certitude à 100% qu'on a une malformation corticale, et qu'en opérant cette malformation corticale, on a une très forte probabilité de guérir le patient de son épilepsie. Donc pour conclure, l'EEG, c'est un examen capital dans la démarche diagnostique pour les épilepsies, y compris dans le diagnostic étiologique. Certaines causes de l'épilepsie ont une signature EEG, c'est-à-dire que sur l'électroencéphalogramme, on peut identifier la cause. Ce n'est pas la majorité des cas. Hein. Le plus souvent, l'électroencéphalogramme va nous guider vers la cause. Et l'électroencéphalogramme, dans sa pratique clinique de routine, je dirais, mais également dans des pratiques un peu plus poussées de recherche ou de soins à haute valeur technique ajoutée, imagerie de source électrique, SEEG, permettent de localiser la cause de l'épilepsie dans le cerveau lorsqu'on est face à une épilepsie en rapport avec une lésion structurelle du cerveau en vue d'une éventuelle opération. Voilà, je vous remercie de votre attention.